Je suis très heureuse d'avoir été conviée à contribuer à cette réflexion collective. En faisant de nécessité vertu, j'ai choisi, ou bien été contrainte, de considérer ce moment moins comme un aboutissement que comme une énième étape d'un travail en cours. On ne s'est pas concerté avec Manuel, mais je pense que nos deux interventions communiquent assez bien. Et ça, c'est peut-être dû au talent de Louis Pinto. Alors, formé auprès d'enseignants et de chercheurs marqués par le métier de sociologue, moi, j'ai, comme beaucoup de thésards de ma génération, appris le métier avec cette équation « Faire de la sociologie, c'est construire un objet ». Mais plutôt avec votre manuel, à vous et aussi à Patrick Champagne et à Dominique Merlier. L'intégration précoce de cette posture, elle a sans doute des vertus, telles que l'acquisition de réflexes, dans toute opération de recherche, que ce soit la délimitation d'une population, le choix de variables, de modalités de variables, se demander qu'est-ce qui est pertinent au vu de mon questionnement. Toujours s'interroger sur l'intérêt sociologique de tel résultat d'enquête, le fameux « et alors ?» que je dis souvent à mes étudiants. Et d'autant, comme je l'ai dit là, que c'est une posture qu'on est amené à transmettre au quotidien, donc auprès de nos étudiants, faire de la sociologie générale, quel que soit le sujet de notre enseignement, dit méthodologique ou dit de spécialité. Pour autant, cette intégration précoce et cette expérience quotidienne de transmission, elle est loin de mettre à l'abri des difficultés de cet aller-retour théorie-empirie. Donc, dans l'enquête dont je vais vous parler, alors que je pense travailler continuellement à la construction de mon objet, je suis clairement, vous allez le voir, happé par l'accumulation de données avec des enchaînements en cascade. Pour saisir le sens de telle prise de position, il me faut connaître tel événement politique, tels alliés, dans telle configuration, tel enjeu économique, etc. Ce qui me renvoie sans cesse vers de nouvelles préoccupations. Alors les questions que je me pose, c'est est-ce que c'est lié à la phase dans laquelle je suis, travail en cours, ou est-ce qu'il est urgent que je hiérarchise mes questionnements et que je reconsidère ma façon d'enquêter ? Quels sont les intérêts et les limites, finalement, d'une construction d'objets relâchés telle que je crois l'avoir pratiquée ? Donc je m'autorise là à partager avec vous un retour sur ma pratique, tout en étant dubitative quant à l'intérêt scientifique pour d'autres, en l'occurrence pour vous, d'un tel exercice. Alors tout d'abord, je vais présenter mon questionnement initial, puis préciser comment j'ai construit ma population, et enfin présenter quelques avancées dans la construction de mon objet sur la base de trois enquêtes circonscrites. Donc tout d'abord, mon questionnement initial ouvert. Donc j'ai initié il y a 6 ans un projet de recherche intitulé donc « Recomposition patronale et espèces économiques locales ». Il s'agissait de travailler sur les patrons et les élites économiques, ceux et celles qui disposent d'une autorité économique. Dans la région nantaise, entendue à géométrie variable, tantôt Nantes, la Loire-Atlantique, la région au sens administratif ou historique. Durant les années 1970-1980, donc période marquée par d'importants bouleversements du capitalisme, mais aussi des modes de reproduction sociale, et avec l'objectif d'interroger les processus de hiérarchisation et de domination en contexte dans une période naturalisée, la fin des Trente Glorieuses. Alors, je me suis appuyée initialement sur 4 façons d'analyser le groupe patronal, avec et contre. Donc moi, je revendique l'apport des états de l'art. Pour moi, c'est penser de façon cumulative. Alors bon, c'est vrai qu'il y avait notamment l'article de Bourdieu de Saint-Martin, qui est paru en 78, hein, donc qui est centré sur les PDG d'entreprises françaises, tous secteurs confondus, et qui porte donc sur la période qui m'intéresse. Moi, j'en retenais donc les modes de reproduction à composantes scolaires ou économiques, l'attention tant pour la transmission de dispositions et de patrimoine que pour la socialisation dans des univers distinctifs, le raisonnement, bien sûr, en termes de champ patronal, mais inscrit dans un champ du pouvoir, l'examen des ressources des dirigeants, leur position économique, politique, sociale et leur discours aux échelles locales, régionales, nationales, internationales, puisque le système relationnel, il transcende les espaces géographiques. Du coup, ma question, c'était quoi de commun entre leur population de PDG de groupes nationaux et la population que j'envisageais, donc plutôt des dominants relatifs. Comment associer un raisonnement en termes de champ économique et du pouvoir, par définition déterritorialisé, à une analyse localisée, donc associée à des situations, des interactions, des expériences, des configurations spécifiques. Je suis allée voir des travaux qui, à l'inverse, se focalisent vraiment sur la dimension territoriale de l'encastrement social de l'économique. C'est notamment Bagnasco-Trigaglia, la troisième Italie. Donc là, eux, dans leur analyse des districts industriels, ils identifient les ressorts socio-économiques d'un système productif local. Et j'ai pu constater que c'est dans cette optique que la plupart des travaux sociologiques centrés sur les Pays de la Loire ont été menés. L'industrie textile et de la chaussure du pays Choletais, l'industrie agroalimentaire du bocage vendéen constituent des cas exemplaires du maintien d'un mode de production flexible associé à une régulation sociale, économique et politique locale marquée par le paternalisme. Alors, je me sentais pas du tout en phase avec ces travaux qui étudient la dynamique socio-économique territoriale, en la valorisant. C'est vraiment fantastique, cette façon de faire, et sans objectiver les acteurs. Ces auteurs qui partagent les schèmes de perception des populations étudiées peuvent être amenés à jouer un rôle de légitimation et à ce titre être intégrés à ma population. C'est en ça qu'il devenait intéressant. Il me semblait que les recherches de Pierre-Paul Zaliot, centrées elles sur l'identité économique territorialisée à partir du cas de Marseille, réussissait à rendre compte du système productif local de façon sociologique. Il exposait l'ascension sociale et les reconversions des dynasties bourgeoises et patronales marseillaises sur l'ensemble du XXe siècle à partir d'histoires interconnectées, l'économie locale, les familles, l'espace urbain, la formation sociale. Moi, j'étais intéressée par sa capacité à saisir les conditions de conversion des ressources sociales, économiques, politiques d'une scène à l'autre, dans différentes conjonctures. Et de même, grâce à son analyse de la diversité des logiques de carrière et des engagements patronaux, donc ça c'était plutôt dans un autre article, je considérais qu'il exploitait de façon vraiment stimulante la notion de multipositionnalité. En revanche, sa posture invite à abandonner tout questionnement sur les rapports de domination, alors même que c'était central pour moi. Puis en outre, son travail m'alertait sur la conséquence de mon choix de m'écarter des seules dynasties patronales sur Nantes. Je n'obtiendrai jamais le même type de résultat, c'est-à-dire je vais être incapable de restituer des généalogies, mais aussi des actions sur différentes signes sociales de façon systématique. Enfin, il y a un article de Yann Fourny sur l'engagement patronal qui ouvrait selon moi une piste intéressante. Lui travaillait à partir d'une recherche sectorielle, l'agroalimentaire en Bretagne, et il a montré que sur un territoire donné, le patronat est un groupe social dont l'organisation collective doit concilier une logique politique de formation de but face aux acteurs publics et une logique économique d'appartenance aux dynamiques productives. C'est grâce à la distinction de ces deux mécanismes qu'il analyse la modernisation de l'économie régionale des années 60 et la recomposition des années 80, avec l'autonomisation des régions, la décentralisation, la restructuration industrielle, l'internationalisation des marchés. Donc ce travail, moi, m'intéressait puisqu'il articule des mécanismes macro-sociaux, état-marché, aux modes d'action de différents acteurs qui sont caractérisés sociologiquement. Il permet d'articuler dimensions économiques et politiques. Mais à la différence près que je ne voulais pas travailler sur le patronat, mais sur les patrons. Et tout statut et tout secteur confondu, donc du coup avec un rapport au marché beaucoup plus éclaté. Et du coup se pose la question de en quoi forme-t-il un groupe social ou un groupe d'interreconnaissance. Donc je me suis en fait inspirée de ces grilles analytiques sans davantage de formalisation. A posteriori, je me dis que j'aurais sans doute gagné dans cette phase à m'appuyer sur l'analogie avec le champ académique. Comment concilier une approche systématique et analytique avec un système relationnel et des modes d'excellence qui dépassent un territoire donné avec une approche monographique que je revendique. Donc j'y ai eu recours de façon informelle, ponctuelle, je dirais un peu sauvage, quoi. Et là, je me dis que c'est peut-être une erreur. Je ne vais pas développer sur les partis pris de recherche en termes de période choisie et de lieu déterminé. En revanche, je voudrais citer quatre investigations empiriques que j'ai envisagées d'emblée. Mon projet se fondait sur une sociographie des agents qui comptent, je les appelais comme ça au départ, les agents qui comptent d'un point de vue économique dans la région nantaise. avec comme cœur de population les dirigeants d'entreprises privées, propriétaires ou non, et avec une prise en compte donc d'individus engagés dans des luttes pour définir ce que doit être l'autorité économique au niveau local. Donc, en intégrant des élus, des fonctionnaires, des syndicalistes, des représentants des médias, des représentants du clergé, des experts, etc. Corrélativement à cette sociographie des dirigeants et élites économiques, j'envisageais trois autres investigations. Cumuler des données sur les entreprises ligériennes des secteurs marchands et concurrentiels et leur transformation dans les années 70-80. Indispensable pour interroger la hiérarchisation des secteurs et des entreprises, les dépendances entre certaines d'entre elles, les évolutions capitalistiques. Disposer de données chiffrées sur l'activité économique qui sont produites par différentes institutions, type INSEE, Chambre de commerce et d'industrie, pour décrire et agir sur le territoire ligérien. Donc ça, ça me semblait essentiel, d'une part pour situer la réalité économique locale, voilà, c'est quoi, mais aussi, bien sûr, pour interroger les enjeux économiques et politiques de production et de diffusion de ces chiffres. Dernière investigation envisagée, enquêter sur les principaux dispositifs locaux de modernisation économique, plus ou moins liés aux politiques d'aménagement du territoire et de régionalisation, là pour situer l'implication différenciée des dirigeants en leur sein, pour identifier les formes prises par les collaborations publiques-privées et en comprendre la logique. Donc mon but, c'était d'objectiver une population de dominants relatifs, de saisir les principes sociaux de leur logique d'action individuelle et collective, au sein du monde marchand et en dehors, de restituer les fondements de leurs valeurs et croyances en lien avec leurs différents cercles d'appartenance. Donc, ce faisant, l'idée, c'était de contribuer à une meilleure connaissance de la bourgeoisie économique. Et donc, finalement, sans trop me poser la question de l'enjeu scientifique. Voilà, c'était juste ça, mon objectif. En revanche, même si je ne l'ai jamais affiché, il est clair que des préoccupations, je dirais, sociopolitiques m'ont poussé à investir ce type d'objet. Il me semble que si je suis allée vers ça, c'était pour rendre intelligible la force de l'économisme ambiant actuel, finalement un petit peu d'une autre façon que j'ai pu le faire pendant ma thèse qui portait sur l'enseignement de gestion où j'étudiais le ça va de soi managérial généralisé aujourd'hui et où je suis revenue sur finalement il faut venir avant le tournant néolibéral du milieu des années 80 pour saisir les mécanismes sociaux en place. Alors, j'en arrive à mon entrée en matière, une entrée en matière coûteuse, où je vais comment s'est passé ce va-et-vient entre construction de la population et construction des sources. Qui dit sociographie d'une population dit établissement de critères de délimitation de la population et identification de sources à dépouiller. Je ne disposais pas de liste prédéfinie de PDG et de directeurs généraux d'entreprises privées donc pour établir le cœur de ma population. Donc j'ai choisi de construire ma population, des patrons et élites économiques, les agents qui font autorité localement en matière économique, en construisant mes sources. Donc des sources qui vont être centrées sur les attributs et les pratiques supposées de cette population. Donc j'ai identifié différents indicateurs de cette autorité économique et j'ai cherché les sources qui pouvaient s'y référer. Bien sûr, là, je me suis appuyée sur l'article de Bourdieu de Saint-Martin, à la fois très stimulant en termes de pistes identifiées, mais aussi très décourageant lorsqu'on travaille seul. Donc, disposer d'une autorité économique localement, quels indicateurs ? Avoir une position économique dominante, c'est-à-dire voilà, avoir une position au sein de la représentation des organisations patronales, avoir un mandat au sein d'une organisation de régulation socio-économique, être membre d'une organisation, association, club à objectifs économiques ou politico-économiques, avoir une position professionnelle en lien avec des intérêts patronaux, une position d'expertise économique locale, être dans les médias économiques locaux, etc. Donc je recherchais dans les bibliothèques, dans les inventaires d'archives, en particulier archives départementales, je dirais là, peut-être là où il y a de la lumière, parce que c'est là où il y en a les meilleurs inventaires, alors que par exemple pour les archives régionales, c'est très très mal classé, on a de très mauvais inventaires, donc en fait j'y suis allée seulement dans un second temps. Donc là par mots-clés, donc j'ai consulté les documents a priori intéressants, et là, pu identifier parfois des listes, parfois des groupes, parfois des noms, etc. L'autre façon de constituer ma population portait sur des pratiques que partagent potentiellement les individus qui comptent économiquement. Être biographié par un annuaire local ou national. Donc là, notamment, j'ai identifié deux annuaires locaux très intéressants, dont les 444 têtes de Loire-Atlantique, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui a été publié en 88 et réalisé par un spécialiste des relations publiques. Mais aussi avoir eu un mandat politique, être membre d'un club sélectif, candidater à une décoration ou l'avoir obtenue, être actif dans une organisation cultuelle, être membre d'une organisation sociale ou de bienfaisance, être membre d'un conseil d'administration d'enseignement ou d'une asso d'anciens élèves, avoir obtenu une nécrologie, être cité dans la presse locale ou nationale, s'investir dans une association patrimoniale, diriger un club sportif, clin d'œil mon voisin, voilà. J'avais pas envisagé, là, dès le début, par exemple, aller regarder des liasses, des renseignements généraux, et je vous dirai à la fin que, en fait, ça a été aussi une des voies pour aller chercher des infos sur mes dirigeants. Donc, c'est un travail d'identification de sources et d'individus particulièrement lourd, mais un travail d'immersion qui a été un peu initiatique. Donc, le risque, bien sûr, était de construire une population beaucoup trop large, que je ne pourrais jamais renseigner convenablement, puisque l'idée, quand même, c'était de réaliser à terme un travail prosopographique sur au moins une partie du corpus. C'était clair que ça n'allait pas être tout, mais voilà. Mais en même temps, l'intérêt d'entrer dans mon objet empiriquement, de m'étonner de tout. Hein, je m'étonnais, par exemple, qui dirigeait l'Union patronale en 69, eh bien, c'est le dirigeant d'une entreprise artisanale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que me dit de l'autorité économique locale cette liste des personnalités de Loire-Atlantique qui est établie par la municipalité de Nantes en 1980, municipalité de droite, les absents, les présents, etc. Que me dit cette radiographie des entreprises de Loire-Atlantique en 1975 qui concentre des données très intéressantes, hein. J'ai l'histoire de l'entreprise condensée, le conseil d'administration, des détails sur la structure capitalistique, mais là, je découvre que les directeurs locaux d'usines ne sont pas présents. Voilà. Donc, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, j'ai élaboré, comme les agents des RG, disaient avec Gérard, j'ai élaboré des fiches d'individus, de familles, de groupes, d'institutions, que j'ai enrichies au fur et à mesure de mes investigations et que je consultais ensuite en fonction de mes interrogations, plus aussi des fiches de lecture, hein, puisqu'il y avait beaucoup d'ouvrages et d'articles qui constituaient pour moi des sources importantes. Donc procéder ainsi m'a incité à développer des hypothèses, plus ou moins contrôlées, à aller vers d'autres sources, mais sans jamais rien finaliser. Donc je ne fonctionnais qu'avec des potentiels, des possibles. Hein, par exemple, j'ai identifié deux patrons très actifs dans l'association des Amis des Beaux-Arts. Et donc là, je me dis, voilà, il faut absolument aller fouiller le rapport, l'intérêt à l'art, observer les porosités entre bourgeoisie économique, bourgeoisie culturelle, mettre en relation espace des styles de vie et position économique, etc. Au final, je dispose d'éléments très intéressants, mais complètement dispersés. Donc, dès ce moment de recherche, qui a quand même été un peu long, je voyais clairement les limites d'une telle approche, hein, me faire totalement submerger par les faits et les pistes. Et donc, j'ai utilisé les contraintes type appel à projet, sollicitation de collègues pour travailler sur des sujets circonscrits dans un temps limité. Alors, j'en arrive donc à trois enquêtes un peu plus circonscrites, et donc pour quel objet, hein, ça reste un peu ma question. Alors, première enquête, je l'ai appelée les mécanismes de contrôle de la représentation dominante d'un territoire. Donc là, en fait, c'est au travers de la déconstruction en cascade d'une source privilégiée, ce Wuzhou local dont je vous ai parlé, paru en 88, que je me suis interrogée sur les mécanismes de contrôle de la représentation dominante du territoire nantais et sur ses enjeux. Ce travail m'a montré certaines activités ordinaires des élites économiques, mais également celles de leurs auxiliaires, ici les communicants, qui constituent des relais et des traducteurs. En fait, afin de pouvoir utiliser ce Wuzhou local, j'étais obligée d'en faire une analyse, donc une objectivation des notices de biographie. Enfin, j'ai fait en tout cas une objectivation statistique des notices des biographiés qui avaient un lien avec l'économie. Donc, en gros, j'en avais 200 sur les 444. Et donc, je me suis posé la question, quelle est la représentation donnée à voir des élites économiques Voilà, j'ai pu comparer à d'autres sources, j'ai identifié des biais. J'ai constaté, par exemple, qu'au niveau des secteurs économiques représentés, on avait une surreprésentation des secteurs financiers, du conseil, une éviction de secteurs industriels, ceux employant les OS, des secteurs sous-représentés, la métallurgie centrale dans la région nantaise, et surtout la grande distribution, vraiment très, très sous-représentée. J'ai pu voir aussi au niveau des profils biographiques, enfin, une forme de jeunisme très, très fort, une majorité de quarantenaires, beaucoup de créateurs et de repreneurs d'entreprises, donc pas du tout fidèles finalement à ce qu'est le tissu économique local. Donc cette représentation biaisée de l'économie était assumée par les concepteurs. L'annuaire, outil d'information mais aussi de promotion, a été pensé comme une carte de visite départementale. Donc il fallait montrer le potentiel économique de Nantes et de sa région. Tourner la page des chantiers navals, 1987, c'est la fermeture du dernier chantier naval à Nantes. Il fallait montrer des secteurs à forte valeur ajoutée, délaisser les autres, montrer le dynamisme entrepreneurial. Alors, l'analyse ensuite des conditions de réalisation de ce dictionnaire a conduit à dépasser ce simple constat de travail de façonnage de l'économie locale, donc, qui était un peu attendu. Donc là, grâce à un entretien avec ces deux producteurs, grâce à des archives des relations publiques de la région des Pays de la Loire, cette fois, donc aux archives régionales, j'ai pu identifier ce que j'ai appelé en fait un coup d'essai de cet annuaire qui a été réalisé 10 ans plus tôt, et là sans censure. Ça a été fait par un professionnel de relations publiques. Donc ce coup d'essai, c'est quoi ? C'est un article de plus de 20 pages qui s'appelle « À la recherche des hommes célèbres ou méconnus », où on va avoir un listing et des présentations de gens importants. Et qui a vraiment été pensé. Et donc j'ai tout le détail de la fabrique. Donc en entrant justement dans les coulisses de sa fabrique, là j'ai pu observer l'étendue du capital social de ce communicant. J'ai pu aussi observer la force sociale du bluff. C'est quelqu'un qui a légitimement sollicité l'énergie d'une dizaine de personnes qui n'étaient pas ses salariés, en l'occurrence des élèves fonctionnaires de l'Institut Régional d'Administration de Nantes. Donc, il faisait des cours là-bas et donc il les a fait bosser. Il a pu donc publier et diffuser un écrit fantaisiste et réactionnaire, présentant qui sont les gens importants dans ce département, et associer ce jeu au bilan d'une collectivité territoriale. Donc il me semble que ça dit beaucoup de choses de l'éthos de la bourgeoisie économique. Ce faisant, j'ai pu aussi approcher la division du travail symbolique réalisé sur l'économique, une forme d'étayage public de la performance privée. Alors que les dirigeants apparaissent dans la doxa comme des acteurs, des pilotes, des entreprenants, ils bénéficient du travail, là en l'occurrence, de propagande réalisée par une institution publique qui leur offre des ressources pour eux-mêmes et pour leurs affaires. Donc l'article là, qui est un public reportage, mais non assumé comme tel, puis l'annuaire. C'est un exemple de travail invisible réalisé par le secteur public qui contribue à asseoir leur position dominante. Aujourd'hui, c'est banal, parce que c'est institutionnalisé. À l'époque, l'intérêt, peut-être, c'est que, en tout cas, on peut faire l'hypothèse que se mettaient en place là de nouvelles formes de relations entre fonctionnaires des collectivités territoriales, communicants, élus, dirigeants, dans cette conjoncture là des années 80, puisque ça, c'était fait en amont. Ça. Et donc avec la montée en puissance ensuite du marketing territorial, etc. Et puis la région qui prend un poids politique associé à la dimension économique. Deuxième enquête qui est dans la continuité, ce sont les luttes entre différentes fractions patronales pour intervenir sur le bien commun local. Je me suis centrée là sur deux institutions qui relèvent dans les catégories d'entendement ordinaire de réalités différentes. D'un côté, un dispositif de communication régionale, le Centre de communication de l'Ouest. De l'autre, un groupe de réflexion, le Club Kervégan. Donc, qui agissent au nom d'une autorité économique et prétendent représenter le bien commun local. Donc, les comparer, pour moi, c'était un moyen de me départir de leur propre définition, de les rapprocher et d'une officine politique, ce qui a été un temps le Club, et d'une entreprise de prestation de services, ce qui était en partie le centre de communication. Je les ai analysés comme deux entreprises de conversion de capital économique en capital symbolique. Observer ces entités conduit à examiner certaines pratiques ordinaires de la population qui m'intéresse. Qu'est-ce que mener un projet pour ces populations relativement dotées ? Comment leur rapport à l'avenir et leur éthos marquent leurs pratiques ? Donc j'ai tenté en fait de restituer les dimensions subjectives de leur raison d'agir, tout en étant sensible aux dimensions les plus matérielles, leur financement, leur clientèle, leur personnel, en suivant Hughes. Et surtout sur une période là de genèse et de premier développement, là où il me semble que l'observateur peut percevoir les diverses tractations matérielles et symboliques qui sont en jeu. Du coup, je ne vais pas trop détailler, mais peut-être, oui, si juste dire que en faisant ça, un des points que je trouvais intéressant, c'est que j'ai essayé de donner toute sa place à l'importance de l'illusio dans les stratégies rationnelles et concertées qu'ont ces agents-là. C'est-à-dire comment à la fois, je pense qu'il faut prendre au sérieux qu'à certains égards, ils ressemblent à des homo economicus, et en même temps, ils sont agis totalement. Et comment tenir ça, voilà, ça c'est une des choses qui m'intéressait. Ce qui m'importait aussi, c'était la façon de voir là, comment ils se mobilisent, contre quels concurrents et quels événements ils réagissent, quels leviers ont-ils à disposition pour s'en emparer et intenter, quelles épreuves ont-ils à affronter. Des choses aussi précises que ça. Je vais aller plutôt... juste citer peut-être la dernière enquête que j'ai faite, où là, c'est sur l'expérience de la confrontation sociale dans l'espace de la production et dans l'espace résidentiel. En fait, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le cadre d'une recherche collective sur les mobilisations contestataires dans la région nantaise, donc mobilisations syndicalistes, féministes, d'extrême gauche. Donc pour moi, c'était l'occasion d'observer mes patrons sur d'autres scènes sociales. J'ai analysé évidemment des conflits sociaux. Hein, j'étais dans l'équipe syndicaliste. Ma difficulté, quand même, c'est d'avoir eu beaucoup de données côté salarié, très peu côté patronal. Je pense vraiment qu'il faut que j'approfondisse néanmoins ces quatre conflits sociaux. Parce que là, je me dis que finalement, on dispose de travaux. Je pense à Vigna sur l'espace de production comme espace politique du côté des salariés, mais qu'est-ce qu'il en est du côté patronal ? Quelle socialisation politique par la pratique de la gestion d'une entreprise ? Hein, quelle socialisation politique par la confrontation sociale ? Et là, en ayant en tête l'idée que cette confrontation sociale, au quotidien, elle est plus ou moins euphémisée. On va avoir une expérience opposée entre le directeur d'usine qui est présent physiquement sur le site de production au quotidien, qui dispose d'un logement de fonction qui parfois est un château et qui est juste à côté de l'usine. Donc il y a des expériences de la confrontation forte avec des dirigeants salariés ou des propriétaires qui vont percevoir les conflits uniquement au travers de bilans chiffrés. Une confrontation sociale aussi atténuée peut-être par les outils de gestion utilisés. Nantes a développé très tardivement son enseignement de gestion. Donc le management, c'est pas leur truc, quoi. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur le rapport à... Bon. En tout cas, ça me semble une piste à poursuivre. Et l'autre scène sociale que j'ai pu investir, c'est celle du lieu de résidence. Là, j'ai étudié un conflit d'usage, en fait, la lutte pour l'accès au bord d'une rivière qui s'appelle l'Erdre, qui a été menée par un comité composite militant paysan travailleur, gauche prolétarienne, PSU, très actif contre des propriétaires de résidences jouxtant la rivière. Hein, l'enjeu est accéder à la rivière. Le répertoire d'action très large, hein, contre-expertise jusqu'à l'attentat à l'explosif, hein, en passant par des manifestations pique-niques sur les lieux, hein, sur ces résidences, ces lieux de résidence, hein, rassemblant 1000 personnes. Et là, grâce au prisme de cette lutte, j'ai pu atteindre des pratiques privées de dirigeants d'entreprise et saisir sous un nouvel angle le rôle des acteurs publics et aussi ce qui fédère ou oppose la bourgeoisie économique. Donc je pense qu'il va falloir que j'aille un petit peu plus vite. Peut-être juste dire là que j'avais pas du tout anticipé, mais finalement là j'ai eu accès aux pratiques illégales, enfin à des pratiques illégales de ces populations dominantes, voilà des populations qui vont défier la préfecture avec des pratiques d'autodéfense, avec des menaces d'organisation de milices privées, avec des menaces d'en appeler aux ministres. Donc là, une des hypothèses, c'était peut-être on peut faire l'homologie entre l'usage de ces méthodes illégales dans le domaine professionnel, hein, ce qu'on voit assez régulièrement, et dans le domaine résidentiel. Donc là, j'avais notamment deux patrons où je savais, enfin, je connaissais leurs pratiques dans les usines, et là, du coup, je voyais leurs pratiques là où ils habitaient. Ça me permettait aussi de voir les pratiques illégales au niveau du foncier. Alors, comment dire ça rapidement ? Bon, juste dire peut-être la conclusion. Là, j'ai pu avec ce travail sur des enjeux là sur le foncier, m'interroger finalement sur la fragilité relative d'outsiders de la bourgeoisie économique, c'est-à-dire des gens qui disposaient de peu de capital social et qui finalement allaient le moins bien s'en sortir. Et là, je pense que c'est une piste pour interroger les rapports de domination internes à la bourgeoisie économique. Donc, bref, cette entrée par la contestation sociale et politique me paraît là aussi à approfondir. Voilà, juste pour dire, peut-être pour conclure, qu'à l'issue de ce chantier de recherche que je vous ai exposé, je pense qu'il est urgent que je hiérarchise mes questionnements. Et ce que je voulais partager aussi avec vous, c'est que je suis pas vraiment persuadée que les chemins sinueux que j'emprunte soient nécessairement heuristiques. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il me donne un vrai plaisir de recherche, ce qui n'est pas tout à fait rien.
Merci beaucoup.